N'est-elle pas de la même matière que sa forme? Matière à doute.
Je dirais volontiers objet à réaction poétique. J'en collecte depuis une vingtaine d'années. Je les dessine passionnément ces derniers temps. N'est-ce pas intriguant?
Remarquablement. Car qui a fait ça? Est-ce une œuvre de la nature ou une œuvre de l'homme? Est-ce le fruit d'un temps infini? Le travail d'un corps vivant?
Le produit d'un artisan au-delà des mers, obéissant à quelque volonté?
Ou les trois?
Eh bien, sachez qu'à force d'observation, je me les suis rendu explicables en mêlant des figures mathématiques à des lois naturelles. Ce sont elles, prenez l'érosion aquadynamique par exemple, ce sont elles qui génèrent, par-delà leur étonnante régularité, leurs traits particuliers et imprédictibles.
Les lois naturelles. Un jour, cher monsieur, de ce ciel au-dessus de nous, j'ai vu des spectacles qu'on pourrait dire cosmiques. Quel rappel des vérités fondamentales de notre Terre. La Terre y apparaît semblable à un œuf poché. Elle est une masse liquide, sphérique, entourée d'une enveloppe ridée. La cordillère des Andes ou l'Himalaya ne sont autres que des rides. D'un avion, j'ai vu se former sur les plaines de l'Uruguay des nuages qui attristeront les logis ou qui feront la récolte abondante ou qui pourriront la vigne. Ou cette rencontre de nus qui donne l'éclair et le tonnerre, craint comme des dieux. Et un moment, éclate comme un coup de canon, le soleil, au bord même de l'horizon. Il chemine vite, c'est vertigineux. Remarquez cette vitesse extrême. C'est noter la rapidité, la fugacité de notre vie et l'irréparable du temps perdu. Que cela est sévère, l'irréparable du temps perdu. Mais les événements n'en restent pas là. Voici les grands phénomènes incontrôlables. Le soleil ronge, troue, brasse l'atmosphère. La densité joue, les masses d'air glissent l'une sur l'autre. L'administration paisible des milliers de petits nuages a été subjuguée par quelques puissances irrésistibles. Voici des rassemblements, des adhésions, des annexions, des coalitions, événements qui aiguisent la curiosité. Ici, l'œuf poché nous incline à la mélancolie, à la désespérance même. Je crois à une neurasthénie de l'œuf poché.
Au contraire. Un tel patrimoine, mais cela incite, cela m'a incité à concevoir un Rio métropole.
Un quoi donc?
Tenez, pour en décrire les principes, j'ai envisagé justement un ouvrage intitulé « L'homme et sa coquille ». Sa coquille, c'est-à-dire le logis dans lequel il est obligé de passer une grande quantité de sa vie.
Jolie métaphore. Dieu sait, pour ce qui me concerne, si je me rétracte comme les cornes de l'escargot quand on m'officialise à l'improviste.
J'ai été comme cela aussi. Aujourd'hui, je me sens le caractère et le tempérament d'un homme qui a foi en ce qu'il fait et désire le voir se matérialiser. Voyez-vous, la situation brésilienne me fut un choc auparavant, mais j'ai acquis la maîtrise du contexte et du site topographique, des enjeux politiques, des potentialités de Rio. Ma thèse est unique. Son premier souci est le logis.
C'est intéressant. Je recherche pour ma part, et avec une véritable avidité, ces maisons qui sont des maisons d'hommes, et non pas des maisons d'architectes. La question est grave.
Précisément. Mon logis, écoutez cela, résulte des réseaux du service public, dont il serait le prolongement des réseaux et au carrefour de ces réseaux des logis. Et c'est ainsi que je propose une nouvelle forme de ville, de récipient d'êtres humains.
Récipient ?
C'est ça. De 14 mètres carrés par habitant, que je regroupe en corps de logis, j'ai calculé sur la base d'un ascenseur tous les 200 mètres que l'on pouvait compter jusque 2700 personnes pour une unité d'habitation verticale. Et ce, dans des immeubles allant jusqu'à 60, 200, 300 mètres de hauteur.
Mais récipient, ce terme.
Vase, si vous préférez. Vase contenant la société. D'ailleurs, les techniques modernes invitent à imaginer des immeubles de formes différentes de celles d'autrefois. Et je les élève sur pilotis, des récipients sur de hauts pieds, des vases.
Je vois des appartements dotés de services communs en l'air, très haut. Je vois... Mais ce que je vois, ce sont presque les nids d'oiseaux planeurs.
Vase ou nid, en effet, cela dépend de quel côté l'on se place, artifice ou nature.
En effet, le débat est ouvert.
Et radieuse. Que pensez-vous de radieuse ? Ma ville modèle, je l'ai baptisée de ville radieuse, qualificatif qui est né accidentellement au retour de mon premier voyage en Amérique du Sud.
À vrai dire, cela m'évoque quelques chimies nucléaires.
J'aurais pu adopter un autre qualificatif. Ville de glorification de la machine, par exemple. Mais voilà, j'en avais assez de m'apesantir sans répit sur des choses dites raisonnables. Comme je suis décidé à faire des architectures et des villes rayonnantes, la thèse nouvelle de l'urbanisme est alors animée de lyrisme. Depuis lors, le terme de ville radieuse a touché le cœur de chacun. Où il faudra démontrer le contraire, et si l'on entreprend cette démonstration, je gagne la bataille.
Soit, je m'incline. Mais dites-moi plus sur votre coquille radieuse.
Il la faut maximum, et munie des joies essentielles, de celles qui peuvent être définies par la science de psychophysiologique. Le silence, de l'air exact, de l'air juste, des bienfaits que la technique moderne peut opérer dès aujourd'hui.
Oh ! Le progrès européen envahit donc ces pays, disent-ils son rationalisme et sa cupidité.
Laissez-moi préciser. Les bases fondamentales des sensations psychophysiologiques dont je parle sont à établir ainsi. Le maître, le soleil, l'espace, des arbres, le temps, le tout selon le rythme alternatif de l'univers de 24 heures solaires.
Mais ce que j'appelle la maison des hommes, mon cher, ce sont ces dispositions fatales, telles que celles que l'on peut observer dans un petit casse-croûte populaire, deux ou trois convives ayant pris leur café et causant. La table est couverte encore de verres, de bouteilles, l'huilier, le sel, le poivre, la serviette, le rond de serviette, etc. Voyez l'ordre fatal qui met tous ces objets en rapport les uns avec les autres. Ils ont tous servi, ils ont été saisis par la main de l'un ou de l'autre des convives. Les distances qui les séparent, ce sont elles qui sont la mesure de la vie.
Vous touchez là deux points que je ne cesse de rappeler. L'échelle humaine, mais également le soleil, grand ordonnateur des phénomènes de notre univers.
Mon éternelle conclusion, quant à moi, après tant de pays parcourus depuis 20 ans, se précise chaque jour. C'est le concept de vie qu'il faut changer. C'est la notion de bonheur qu'il faut dégager. Là est la réforme, le reste n'est que conséquence.
J'ai omis la verdure. La verdure est un élément précieux de satisfaction psychophysiologique. Alors, si je récapitule, J'élève mes formations cellulaires sur de hauts pilotis. Je libère le sol. Je sauve le patrimoine naturel. Je le mets en valeur, à la disposition de tous. J'assure ainsi un contact suffisant avec les choses de la nature.
Bien, bien, mais... Mais moi, je voulais dire amour. On peut dire qu'une maison d'homme est amour.
Nous autres, urbanistes, pensez bien, posons les bases fondamentales, mais ne croyez pas que nous puissions assurer le bonheur lui-même. Le drame ou les passions, c'est le destin qui s'en charge. Évidemment, on aimerait bien en arriver tout de même, comme ce fut le cas lors des conférences que j'ai données ces derniers jours, à cette nécessité qu'il s'agit de mettre un homme heureux dans une ville.
Bonheur, amour, ces sensations ne sont-elles pas, comme vous dites, psycho et physiologiques, et de la plus pure espèce? Mais sait-on seulement expliquer ce genre de phénomène? Par exemple, puisque notre rencontre m'y fait penser, comment expliquer qu'une idée, qu'un sujet de préoccupation pénible, qui se trouve actuellement écarté, absent, dissimulé entièrement à l'esprit par quelque autre objet d'attention dont on se croit tout occupé, vous soit brusquement, brutalement rappelé par un pincement subi dans la région du cœur? Et d'ailleurs, comment comprendre qu'une même idée qui accable l'un laisse l'autre insensible?
Mais je ne l'explique pas.
On n'explique rien. A-t-on jamais expliqué la simple contagion du rire, du bâillement ou de la nausée? Et alors? Sortir, se distraire d'une idée préoccupante ou la recevoir en plein cœur, au hasard d'une rencontre, rire ou bâiller de concert, est-ce que ce ne sont pas des phénomènes urbains qui peuvent nos sciences, nos techniques, nos microscopes?
On n'en sait rien, sans doute. Biochimie, dirons-nous, sécrétion interne, action de déséquilibre chimique sur la cellule nerveuse. Ajoutons quelques réflexes.
Le fait est que notre connaissance de la vie est misérable. Certains médecins vont jusqu'à l'admettre. Nous savons même assez mal de quoi nous sommes capables. Voyez combien de criminels ne peuvent croire à ce qu'ils ont fait. Il y a ainsi des actes dans lesquels on ne se reconnaît pas.
Et dont on voudrait bien décliner la responsabilité. Oui, cela arrive.
C'est que la science de la vie, elle, ne s'intéresse qu'au pathologique. La vie encore possible dans une condition plus ou moins altérée, diminuée, précaire, la lutte, les suppléances, les réactions. Il faut qu'il y ait des anormaux et des malades.
Hélas, n'empêche qu'il faut bien progresser. Et cela pose au premier chef un problème de lieu et de locaux d'habitation.
Nous y revoilà. En ce qui me concerne, c'est simple. Je nage tous les jours devant mon hôtel. Je rentre en peignoir par le monte-charge dans ma chambre, à 30 mètres de haut. À 7 heures du matin, je suis dans l'eau.
Eh bien, ma thèse va dans ce sens. Mes immeubles villas libèrent le sol, je l'ai dit. Cela fait 100% du sol libre. Mais voici, en plus, j'installe des solariums, des plages de toiture. Ce faisant, j'ai reconquis près de 12% de sol nouveau, artificiel, sur le toit des édifices eux-mêmes. Et puisque les chiffres ont du vrai, l'addition est facile. Cela nous fait 112% de terrain libre une fois la ville construite.
On ne risque pas d'y trouver une coquille.
Comment ? Je vous sens moqueur.
Au contraire, bonnement factuel. C'est que votre thèse m'éveille les souvenirs d'une atmosphère moscovite. Votre ville radieuse, maintenant, me remémore un concours de ville verte sur lequel j'avais eu l'occasion de donner mon point de vue il y a quelques années.
Ah, ce serait une drôle de coïncidence que la ville radieuse soit une ville verte. Je l'ai soutenue, en effet.
Voilà de quoi il s'agit. Dans le cadre du programme quinquennal pour l'équipement général de la Russie, des comités de médecins, des comités de femmes et des comités de sportifs ont décidé un repos obligatoire optimum, c'est-à-dire minimal, pour les travailleurs afin de leur permettre d'entretenir et de réviser leurs machines. Pour cela, des villes vertes furent imaginées où les moscovites se rendront en roulement un jour sur cinq. Tout y est régi par le plan et le nombre. Des bâtiments de 15 mètres sur 12, divisés en cellules de repos. 25 000 sont envisagés la première année, mais ils visent le chiffre de 100 000. Sont répartis ingénieusement sur un terrain naturel. Enfin, il faut comprendre naturel comme une forêt plantée de sapins, une ferme modèle industrielle et un lac artificiel, le tout ponctué de nombreux stades. Car le sport est une des raisons péremptoires de la ville verte. Il s'agit, pourrait-on dire, de désénerver la population, voire de tenter de donner à chacun un sentiment de liberté.
Formidable. Et qu'aviez-vous dit ?
J'ai crié gare. C'est d'hommes qu'il s'agit. Des besoins d'hommes groupés dans un but de coopération indispensable, matériel et spirituel. Il faut placer l'homme au-devant des doctrines.
Oui. J'en aurais dit de même. Pourtant, les doctrines ont du bon. Je livrais, voyez-vous, 6 conférences ce mois-ci face à un public, disons, exigeant. Et j'ai de longue date appris qu'il était nécessaire d'exprimer un système d'idées claires, indiscutables, voire foudroyantes. Je me souviens que mon confrère Alfred Agache avait dit un jour au préfet de Rio que j'étais un homme qui casse les vitres, un homme qui fait des courants d'air.
Mode d'expression radieux ou jupitérien ? Mais il arrive que la tour d'ivoire émette des ondes puissantes, d'elle-même inconnues. Rien de plus intéressant que de voir les idées, soustraites à l'intellect où elles furent conçues, isolées de leurs conditions complexes de naissance, des analyses délicates, des centaines d'essais et de rapprochements qui les précédèrent, devenir des agents politiques, des signaux, des armes, des excitants, et ces produits de la réflexion être employés pour leur valeur purement impulsive. Que d'exemples depuis 150 ans. Fichte, Hegel, Marx, Gobineau, Nietzsche, même Darwin, utilisés, débités en formules fortes et grossières.
Ma foi, votre remarque est instructive. Ah, si mes idées forces pouvaient déjà mouvoir comme émouvoir. Tenez. Un texte formidable me revient en mémoire où il est question d'un architecte capable de concevoir les émotions et les vibrations de l'âme du futur contemplateur de son œuvre. Il faut, lui faisait dire l'auteur, que l'architecture meuve les hommes.
Comme l'émeut l'objet aimé. Il semble que nous ayons les mêmes sources.
Semble-t-il. Étrange tout de même. Eh bien, c'est ainsi. Avec des mots force et des émotions, avec des logis traversés de réseaux, dans cette combinaison d'immobilité et de mobilité, c'est ainsi que j'ai conçu la ville radieuse. Reprenons. Grâce à mes immeubles villas sur pilotis, j'ai libéré le sol. Et je libère la rue pour les piétons, car des édifices viaducs supportent les routes, les autostrades.
Oui, les autostrades, car il faut commencer, n'est-ce pas, par poser le problème de la circulation prochaine. De cet avion dont je parlais, j'avais dessiné pour Rio de Janeiro une immense autostrade, reliant à mi-hauteur les doigts des promontoires ouverts sur la mer de façon à raccorder vitement la ville par l'autostrade, aux interlands élevés des plateaux salubres. Ainsi, une branche peut buter sur le Pao de Açúcar.
Mais alors, vous y étiez ? Vous étiez à ma conférence de 1929 ? Vous m'honorez. Je tente précisément aujourd'hui de légitimer cette colonne vertébrale de mon projet.
Elle se déroule ensuite en une courbe ample, majestueuse, élégante, au-dessus de la baie Vermella, de la baie de Botafogo, elle passerait juste au-dessus de nos têtes. Elle touche à la colline où s'arrête la plage de Gloria, domine dans le fond ce site enchanteur, touche au promontoire de Santa Teresa et là, au cœur de la ville active, elle s'ouvre, inclinant une branche vers le golfe et le port marchand. L'autre branche s'en va par-dessus têtes étendues de villes qui s'enfoncent dans l'estuaire des terres.
C'est ce que j'avais énoncé. À présent, j'ai calculé un maillage de 400 mètres sur 400 mètres, élevé à 5 mètres du sol. Et il se trame entre les espèces d'édifices que les circonstances locales de topographie, géographie, climat, soleil peuvent conduire à admettre.
Les paquebots qui passent, comme celui-ci là-bas. Immeubles mouvants, magnifiques des temps modernes, trouveraient là, suspendus dans l'espace au-dessus de la ville, une réponse, un écho, une réplique.
Ah, mon logis coquille vire à présent à la coque. Attention.
En effet, attention, car on y verrait plutôt des yachts.
Ou des saintes chapelles du béton armé.
Je vois que nous nous comprenons.
Vraiment ? Va savoir. Ces coques de béton évoquent à l'instant Tridon, ce constructeur de vaisseaux que décrit cet auteur que nous venons d'évoquer, une canaille formée sur la mer, forte coquille habitée par une bête qui s'engraissait de toutes choses précises. Tout ce qui pénétrait dans ces labyrinthes embroussaillés était la proie d'un monstre singulièrement avide. Je l'imagine, entouré des débris et des coques vides de 1000 esprits épuisés.
Vous voilà blagueur, mais vous me peignez un poulpe.
N'est-ce pas un vivant 100 fois plus vivant que l'immobile éponge ? Combien d'éponges humaines ai-je connues, absorbant et restituant sans effort toutes les opinions fluctuantes autour d'elles ? Les éponges et les sots ont ceci en commun, qu'ils adhèrent.
C'est bien lancé.
Il me fallait le dire.
Vous vous sentez mieux ?
L'esprit libéré, sans doute, d'une question préoccupante.
C'est la mobilité propre à l'esprit qui conduit aux lointains horizons des grandes solutions. Quand les solutions sont grandes, la nature vient s'y marier allègrement. Plus que cela, quand la nature vient s'y intégrer, c'est alors qu'on approche l'unité. Il en est ainsi de ces immeubles mouvants. L'œil y verra deux choses. La nature est le produit du travail de l'homme.
Et les viaducs autostrades offriront de quoi surrouler la ville.
Ah oui, surrouler la ville sur des gratte-mers pour se rendre vitement à la plage.
C'est cela, et je trace dans le sable devant vous ce que j'ai dessiné ces jours derniers à mon public. Le logis. D'abord, c'est une vue cadrée sur le paysage par une baie ouverte sur le plein air. Je vais établir ici un bon fauteuil, mettre un habitant de Rio dedans. Je vais mettre une table, une console, mettre des murs autour de tout ceci. Voilà. Et ainsi, j'ai changé le logis. J'y ai apporté le miracle qui peut entrer dans le cœur le jour et la nuit. Je peux compléter par ceci. Le matin, j'irai prendre mon bain à Copacabana avec toute la famille. Donc, je prendrai une autostrade qui viendra au logis, ici. Voilà. Pour terminer, j'indique la mer par le vitrage du logis et quelques verdures.
Votre tracé, pardonnez-moi, mais avec ce hublot ou ce pare-brise...
Des pans de verre qui sont les bienfaits des techniques modernes.
Sans nul doute, mais votre coquille logis ne tourne-t-elle pas un peu à l'habitacle ?
Écoutez, je place les ascenseurs tous les 200 mètres. Et au pied des ascenseurs, les voitures automobiles à 5 mètres du sol, garées dans des autoports, raccordé à une autostrade à proximité.
C'est de la coquille mécanique.
Mais cela permet d'aller plus vite où l'on souhaite.
Alors nous vivrons sous le régime de l'abracadabra automatique. De plus en plus fort, de plus en plus grand, de plus en plus vite, de plus en plus inhumain. Grâce au progrès permis par le mécanique, on abracadabre, comme on dit, mais avec automatisme. C'est toute l'histoire d'ailleurs des temps modernes. Le poker universel, le poker de promesses, de menaces, d'injures, d'inventions, de dimensions, le poker politique, économique, technique, littéraire, militaire, La course aux armements, au perfectionnement, aux éblouissements.
Mais il est temps de se mettre au-dessus de la machine, de la commander, considérant désormais les machines comme étant nos propres créatures. Nous les disciplinerons, nous leur imposerons un programme rationnel, sage.
Ah, par exemple.
Et alors, l'esclavage maudit de cette fin de première ère machiniste cessera. La machine nous libérera, nous comblera de ses bienfaits, nous apportera l'abondance.
Parfait. Cet auteur que nous citions disait ailleurs qu'il semble y avoir une sorte de pacte entre la machine et nous-mêmes. Un pacte comparable à ces terribles engagements que contracte le système nerveux avec les démons subtils de la classe des toxiques.
Et où voulait-il en venir ?
Selon lui, l'allure de la modernité est celle d'une intoxication. Il nous faut augmenter la dose ou changer de poison. Telle est la loi. Qu'en pensez-vous ?
Laissez-moi vous faire part d'une méditation à laquelle je me suis livré au sortir des usines Ford à Détroit. Son édifice est formidable, dans une discipline magnifique, qui a pour effet d'offrir à son initiative une précision extraordinaire. Il a tout organisé pour faire des voitures, ayant à sa disposition ses mines de charbon, ses propres aciéries, ses fonderies, ses tours, ses ateliers qui lui permettent de déposer au fur et à mesure le long d'une chaîne, de fabrication, des éléments qui s'assembleront. On se dit que si les choses de l'architecture étaient réglées par de telles méthodes, nous aurions la solution. Et pourquoi pas ?
Il prédisait leur avenir monumental aux informes amas de carbone et de minerais qui gisaient autour de lui. Ses discours et leurs actes s'ajustaient si heureusement qu'on eût dit que ces hommes n'étaient que ses membres. Votre récit m'appelle quelque poésie.
Mais je vous en prie, faites donc. Le ton est juste. De quoi est-il question ? Il est question de liberté individuelle. Admettons-le.
Ah, vous me laissez pantois.
Il est question de puissance collective. On ne peut nier la force de la collectivité.
Vraiment ? Pour ma part, j'ai toujours appréhendé de me rendre aux USA, d'affronter le champ du dur travail, les terres de la sélection dans la violence des affaires, les lieux hallucinants de la production à outrance.
Oui, une drôle de contrée, à vrai dire. C'est aux USA, l'an dernier, que j'ai eu, tout à coup, la notion du grand gaspillage. Celui qu'engendre le déploiement des cités jardins horizontales, les réseaux routiers, les canalisations, le temps de transport, la dénaturalisation du phénomène urbain. Alors, j'ai proclamé aux Américains, vous avez libéré les nègres, mais vous vous êtes enchaînés vous-même, vous avez créé votre propre esclavage par le grand gaspillage.
Bravo. Ils avaient déjà leur actif, le gaspillage créatif et l'obsolescence planifiée. Vous les flattez d'un nouveau concept.
Tenez. Savez-vous que derrière les belles américaines au capotage profilé et les paquebots aux courbes sensuelles qui épatent le port de Rio, une théorie de la création industrielle flirte avec notre chère coquille ?
Vous m'intriguez. Décidément, elle est de toutes les interprétations en ce moment.
Écoutez donc.
Que pourrais-je faire d'autre ?
Un homme de théâtre du nom de Norman Bel Geddes, qui se trouve être aussi un naturaliste amateur, s'est lancé dans une relecture organique de l'aérodynamisme. Partant du constat que les organismes minéraux ou animaux, qui ont été naturellement formés par leur milieu, air ou eau, ont de fait, dans leur forme même, la capacité de s'y mouvoir aisément. Il a suggéré un parallèle avec les objets qu'il faudrait naturellement former dans une société technophile pour qu'ils évoluent aisément au sein d'une idéologie progressiste. Sa théorie s'applique à tout, Les véhicules, évidemment, mais également les accessoires de la vie quotidienne, l'architecture, la ville et même la structure sociale. Tout cela sorti de l'observation fascinée de son vivarium.
Cette coquille est donc aérodynamique ?
Streamlinée, plus précisément. Modèle de conception pour un monde fluide qui ne connaîtrait plus de perturbations dans le milieu socio-économique, plus de dépression dans le milieu des capitaux.
Abracadabra, disais-je.
Le streamline invente ainsi une nouvelle logique biologique de la création et de la consommation. Et ça marche.
Vous voulez me révolter, m'écœurer ?
Précisément. Certains y verront sans doute un cycle digestif. Oui, un cycle digestif. Acheter, ingérer, consommer, digérer, jeter, excréter, et ça recommence. Acheter, consommer, éliminer.
Au menu, escargot, manière Brillat-Savarin à la sauce américaine.
C'est cela. Nous poussons la biologie jusque dans les viscères. Mais de ce côté, nous n'avons pas d'appareil très perfectionné. Tout est grossier, brutal. Cela ne sait dire que bon ou mauvais.
En l'occurrence, mauvais.
Nous plongeons dans les masses laborieuses.
Où règne l'automatisme.
Certes, et la tyrannie quand la faim tenaille, et le caprice quand le foie se fait gros.
On nous fait manger des coquilles et on devient mollusque.
Streamliné soi-même.
Théorie eugéniste avec ça, de la biologie appliquée.
De fait, attention. Ne nous trompons pas de coquille. Car faire de l'architecture, construire, n'est-ce pas autrement se construire ?
Se construire ?
Oui, laissez-moi finir. Se construire soi-même.
Se construire ou se connaître soi-même ?
Sont deux actes distincts.
Voyez donc les déjeuners et les dîners diplomatiques. On a chargé assez les estomacs pour qu'une part du contrôle intellectuel soit perdue. Et alors, on parle d'affaires. On traite des guerres, des alliances, des douanes, des spéculations innombrables. On digère comme des serpents les périlleuses combinaisons d'un monde qui a cessé d'exister véritablement.
Nous redevenons un tube à sens unique.
Et on y traite d'architecture. Les palais de Genève étaient les plus inconcevables baldaquins de peluches rouges et de passementeries dorées qu'on puisse imaginer. Mais il y avait un but à ces palais. Travailler au bien du monde, tout comme il y a un but, ordinairement, un repas, nourrir. Pensez donc, travailler, faire vite, limpide, exact. Et la diplomatie, qu'en faites-vous ? Et l'art culinaire de l'architecture ?
Vous ramenez donc les arts et les sciences à de la cuisine.
Oh, je ne fais qu'en effleurer l'idée. Il en faut bien pour suivre les mutations de notre époque, celle-ci ou une autre. Les vérités scientifiques, dans leur constante mobilité, conduisent un jour à la réflexion, au « à quoi ça sert ?» et par une réponse qui est proprement l'intervention personnelle, progressivement à une sagesse.
Et laquelle ?
Je n'ose vous le dire. J'en suis arrivé moi-même, c'est étrange, à appeler qu'une autorité, un homme, Lyric Assé, édicta une loi, une réglementation.
Une recette ?
Une doctrine. Mais voilà que je parle comme vous.
Oui, merci. Ce fut la conclusion de mes conférences. L'autorité n'est pas renseignée.
Belle formule, quoique désagréablement ambiguë.
Malheureusement, depuis le Rio que j'avais connu en 1929, vous savez ce qui s'est passé ? Oui, vous savez ce qui s'est passé. Les gens privilégiés ont pris les bons endroits et les autres sont partis dans des banlieues tentaculaires et d'autres sont venus, sous la poussée de l'argent, installer des murailles égoïstes en devant de ces baies. La ville est en menace. Vous voyez surgir une attitude hirsute de ville qui rappelle la grandeur de Buenos Aires, une grandeur cacophonique, une grandeur qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi il faut renseigner l'autorité.
C'est-à-dire, de qui parlez-vous ?
Je vous explique. Comprenez, il y a la politique et il y a les plans. Ce sont deux choses différentes. La politique a pour objet de légiférer, mais nous sommes devant des phénomènes urbanistiques, devant la question de l'équipement de la société machiniste. Cet équipement est un fait matériel qui s'appuie sur des valeurs morales. Il faut légiférer selon l'urbanisme. Et il est difficile à l'autorité d'y voir clair. Y a-t-il une autorité en cette matière ?
Je comprends. Mais peut-on jamais juger ? Un jugement, c'est un arrêt, terme de justice. Arrêter, c'est cesser d'écouter et de voir encore. C'est prétendre savoir. Je ne juge ni ne jugerai. J'aime mieux recevoir, toujours.
Mais l'heure est venue où peuvent intervenir les pères de la patrie, les chefs de la nation, c'est-à-dire l'autorité. C'est elle qui doit discerner la marche en avant.
La marche sportive ?
Que dites-vous ?
La marche mécanique ? Automatique ?
Laissez-moi poursuivre. Il existe aujourd'hui une certaine autorité qu'il faut considérer en ce moment, car elle est vivante. Les CIAM, les congrès internationaux d'architecture moderne, sont parvenus à établir une véritable charte qui a été publiée. Il y a maintenant une directive. Voilà, une autorité qui s'est constituée.
Exemple pour Rio.
Voici. Au premier chef que Rio tente cette gageure. Tenir tête par l'architecture à son paysage. Et non pas se retrancher derrière ce qu'exprimait si crûment mon ami Sandrard. Quoi qu'ils fassent avec leurs petits urbanismes, le paysage les écrasera.
Ah, ce cher Blaise.
Grâce à l'autorité, nous le démentirons.
Le démiurge, quand il s'est mis à faire le monde, s'est attaqué à la confusion du chaos. Tout l'informe était devant lui. Il a débrouillé cette boue vaguement radieuse. Pardonnez-moi, je citais.
À votre guise. Je reconnais ce passage et je prolongerai, mais je viens après lui. Je suis le constructeur, celui qui conçoit ce que vous voulez, un peu plus exactement que vous-même.
Et c'est à cette tirade de Socrate que Phèdre rétorque qu'il préfère dans ce cas savoir mort un tel architecte.
Vous interprétez.
Je lis au contraire rigoureusement cette petite tirade que l'on a trop vite fait de négliger.
Fi donc. Arrêtons de chicaner. Je dis qu'il faut prendre, par les techniques modernes, possession de cet immense paysage. Une ville peut surgir qui sauvera le patrimoine naturel.
Bigre !
Qu'avez-vous ? Vous tremblez ?
Dans la forêt d'Amazonie, y êtes-vous entré ? Il se passe plein de choses, mais on ne voit rien. La forêt vierge est comme les autres. Partout, il y a les lianes. Il ne faut pas omettre de les voir. Il y a des jaguars. Mon compagnon en a tiré un, mais on n'en voit pas. Le soir, on entend crier éperdument les perruches. Elles sont vertes comme les feuilles. On ne les voit pas. Il y a des serpents immenses. Un jour, un homme de la plantation en est mort. On n'en voit pas. La forêt est silencieuse, immobile, touffue, impénétrable, peut-être menaçante. Restez, guettez, écoutez, une, deux journées durant, et la forêt parlera. Mais on n'a pas le temps, et ainsi dans la vie. La conséquence, c'est qu'on ne voit plus le paysage.
On ne voit plus, mais on prévoit. D'ailleurs, on ne dessine plus, on planifie. C'est que je vais assez loin sur la valeur du plan. Je dis qu'il est dictateur. Il affirme, prouve, exhorte, démontre. Il met les gens au pied du mur.
Fomenteriez-vous intimement quelques plans de coquilles ?
Ces choses peuvent se réaliser.
J'observe votre main entrouverte au creux de laquelle vous tournez et retournez depuis tout à l'heure une de ces modestes formes blanches qui décidément nous agitent tant.
Elle m'apaise sans doute.
Regardez, on croit voir Rio. Vos doigts sont comme des éminences rocheuses, vos lignes de vie, les lits de fleuves qui glissent entre des gorges concaves.
Oui. Ben oui, je vois. Et dans la manière dont elle s'organise, elle rayonne comme des pistes autour de certaines maisons entourées d'orangers, plantées en quinconces réguliers, qui s'en vont vers tel abreuvoir, puis vers un champ, puis vers les lieux où sont les troupeaux. Où est le voisin ? Où est un ravitaillement possible ? Où est le docteur ? Où est la jeune fille qu'on aimerait aimer ?
L'homme et sa coquille. C'est ainsi, disiez-vous, que vous souhaitiez intituler votre thèse pour Rio ? Ne vaudrait-il pas mieux l'homme et la coquille ? Ainsi, l'idée reste libre, la main ouverte.
Eh bien, ne vous gênez pas. Je vous en laisse l'ouvrage.
Je vous en sais gré. Sous un tel titre, je trouverais heureux d'expliquer enfin comment une coquille peut donc nous servir en ce qu'elle excite tour à tour, notre discussion l'aura démontré, ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous ignorons.
En vous écoutant, c'est troublant. Voilà que des souvenirs, des images, des sensations de ma première rencontre avec Rio m'assaillent.
À la bonne heure.
La ville m'avait semblé défier radieusement toute collaboration humaine de sa beauté universellement proclamée. Mais il m'était alors venu un désir violent, fou peut-être, d'ici aussi tenter une aventure humaine. Le désir de jouer une partie à deux, une partie affirmation homme, contre ou avec présence nature.
Comme vous parlez d'amour.
Oui, cela fait 7 ans. Je suis revenu tel que je fus attendu, préparé, armé, carapassonné. Ben oui, à l'instant où je vous parle, me voilà pris d'une plénitude exquise. Mon corps s'en souvient comme s'il était de la partie.
Il l'est.
Cher ami, cette journée me paraissait difficile à vivre. Grâce à vous,
je suis mesure et démesure, rigueur et tendresse, désir et dédain. Je me consume et j'accumule. Je m'aime et je me hais. Et je me ressens, depuis le front jusqu'aux orteils, m'acceptant tel que je suis, quel que je sois, répondant de tout mon être à la question la plus simple du monde. Que peut un homme ?